Une péripétie dans la vie de Monsieur John Oakhurst. Il pensa toujours que ç'avait dû être le destin. Assurément rien ne pouvait avoir été plus contraire avec ses habitudes que de s'être trouvé à la Plaza à 7 heures en cette matinée de la mi-été. Le spectacle de son visage terne à Sacramento était inhabituel en cette saison, et, de fait, en toute saison, en quelque endroit public, avant 2 heures de l'après-midi. En y repensant des années plus tard, sous l'éclairage d'une vie sous le signe du risque, il conclut, avec la philosophie particulière à sa profession, que ça avait dû être le destin. Mais c'est mon devoir, en tant que chroniqueur rigoureux des faits, de mentionner que la présence de Monsieur Oakhurst en ce lieu, ce matin-là était due à une cause très simple. À exactement 6h30, la banque étant gagnante pour un montant de 20 000 $, il s'était levé de la table du pharaon. Note du traducteur, le pharaon est un jeu de cartes français, populaire à la cour de Versailles, devenu le plus populaire des jeux de hasard au XIXe siècle aux États-Unis. Fin de la note, avait cédé sa chaise à un confrère expérimenté, et s'était retiré tranquillement, sans attirer un regard des faces silencieuses, anxieuses, penchées sur la table. Mais quand il entra dans sa luxueuse chambre, traversant la ruelle, note du traducteur, la ruelle est un espace entre le lit et le mur. Fin de la note, il fut un peu surpris en découvrant le soleil donnant à travers une fenêtre restée ouverte par inadvertance. Quelque chose dans la beauté inhabituelle du matin, peut-être quelque chose dans la fraîcheur de la vue, le frappa alors qu'il était sur le point de fermer les volets, et il hésita. Puis, prenant son chapeau sur la table, il descendit dans la rue par un escalier privé. Les gens qui étaient dehors à cette heure matinale, étaient d'une classe tout à fait inconnue à Monsieur Oakhurst. Il y avait des laitiers et des colporteurs distribuant leurs marchandises, des petits commerçants ouvrant leurs boutiques, des bonnes balayant des pas de porte, et parfois un enfant. Monsieur Oakhurst regardait tout cela, avec une certaine curiosité froide, peut-être tout à fait débarrassé de cette inclination cynique avec laquelle il considérait en général les spécimens plus prétentieux de sa race, qu'il côtoyait habituellement. En fait, je crois qu'il n'était pas du tout mécontent des coups d'œil admiratifs que ces humbles femmes lançaient à sa silhouette et à son visage élégant, flagrant même pourtant dans une région d'hommes de belle allure. Alors qu'il est très probable que ce méchant vagabond, dans l'orgueil de son isolement social, aurait été froidement indifférent aux avances d'une dame distinguée, une petite fille qui courait admirative à ses côtés dans une robe en guenilles, eut le pouvoir de faire venir une légère rougeur sur ses joues pâles. Finalement il la repoussa, mais pas avant qu'elle ait découvert ce que découvrait, tôt ou tard, ce sexe perspicace et au grand cœur, qu'il était exagérément prodigue et généreux de son argent, et aussi ce que, peut-être, personne d'autre de son sexe découvrit jamais, que les yeux noirs audacieux de ce distingué gentleman étaient en réalité d'un gris brunâtre et même affectueux. Il y avait un petit jardin devant un cottage blanc dans une petite rue, qui attira l'attention de Monsieur Oakhurst. Il était rempli de roses, d'héliotropes, et de verveines, des fleurs qui lui étaient suffisamment familières sous la forme plus coûteuse, et plus transportable des bouquets, mais, à ce qui lui sembla alors, jamais aussi notablement jolie. Peut-être était-ce parce que la rosée était encore fraîche sur elle, peut-être était-ce parce qu'elle n'était pas coupée, mais Monsieur Oakhurst les admira. Non comme un possible tribut futur à la fascinante et accomplie Miss Ethelinda, alors en représentation aux variétés, spécialement pour le plaisir de Monsieur Oakhurst, comme elle le lui avait souvent assuré. Ni encore, comme une douceur pour la captivante Miss Montmorency, avec laquelle Monsieur Oakhurst espérait souper ce soir, mais simplement pour lui-même, et, qui sait, pour l'amour des fleurs. Néanmoins, il s'éloigna, et arriva à la place publique, où, rencontrant un banc sous un peuplier, il épousseta l'assise avec son mouchoir, puis il s'assit. C'était une belle matinée. L'air était si tranquille et calme, qu'un soupir des sycomores semblait la respiration profonde de l'arbre juste en train de s'éveiller, et le faible bruissement de ses branches, comme l'étirement de membres engourdis et se revigorant. Au loin les sierras se détachaient sous un ciel si éloigné, qu'il paraissait de couleur incertaine, si éloigné, que même le soleil désespérait de jamais l'atteindre, et gaspillait négligemment sa force sur le paysage, jusqu'à ce qu'il se mit à étinceler en un contraste vif et blanc. Sous l'effet d'une impulsion qui lui était peu familière, M. Oakhurst ôta son chapeau, et s'inclina à demi sur le banc, son visage tourné vers le ciel. Des oiseaux confiants, qui avaient pris une pose d'observation dans des branchages au-dessus de lui, commencèrent apparemment une discussion animée quant à ses possibles intentions malveillantes. Un ou deux, enhardis par le silence, vinrent sautiller sur le sol devant ses pieds, jusqu'à ce que le bruit de roues sur le chemin de gravier les fit fuir. Levant les yeux, il vit un homme venant lentement dans sa direction, conduisant un véhicule indéfinissable, dans lequel une femme était à la fois assise et couchée. Sans savoir pourquoi, M. Oakhurst devina immédiatement que le véhicule avait été inventé et fabriqué par l'homme, en partie à cause de sa bizarrerie, en partie à cause des mains fortes de mécanicien qui le maîtrisait avec puissance, et en partie pour la fierté manifeste, et la compétence certaine dans la manière avec laquelle l'homme le manœuvrait. Puis M. Oakhurst se rendit compte d'autre chose, le visage de l'homme lui était familier. Avec ce don de ne jamais oublier un visage rencontré dans des circonstances professionnelles, il le retrouva instantanément, classé sous les termes suivants, à Frisco, le Saloon Polka. Perdit sa paye de la semaine. Je crois que c'était $70 sur le rouge. Ne revint jamais. Il n'y avait, cependant, pas de trace de ce souvenir dans les yeux calmes, et le visage immobile qu'il posa sur le nouveau venu, qui, au contraire, rougit, parut embarrassé, hésita et puis stoppa avec un mouvement en avant involontaire, qui amena le véhicule et sa belle passagère face à face avec M. Oakhurst. Je rendrai difficilement justice à la place qu'elle occupera dans cette chronique véridique, en décrivant la dame maintenant, si tant est que je sois capable de le faire. Assurément l'opinion populaire était hostile. Feu le colonel Starbottle, de qui je tiens une grande expérience du beau sexe avant de lui avoir ensuite été redevable de nombreuses suggestions précieuses, avait, je regrette de le dire, déprécié ses charmes. Une infirme, au visage jaune, passons rapidement. Une femme malade, avec des yeux à cajou, une sorte de veau vierge exalté, sans chair sur ses os. D'un autre côté, cependant, elle fut l'objet plus tard d'un dénigrement beaucoup plus gracieux venant de son propre sexe. Miss Celestina Howard, deuxième meneuse de ballet aux variétés, avait avec une grande franchise allitérative, dans les années qui ont suivi, dit d'elle que c'était un aspic aquilin, note du traducteur, une vipère rapace. Fin de la note. Mademoiselle Brimebonne se rappelait qu'elle avait toujours mis en garde Monsieur Jacques que cette femme lui empoisonnerait la vie. Mais Monsieur Oakhurst, dont les impressions sont peut-être plus importantes, vit seulement une femme pâle, mince et aux yeux profonds, élevée au-dessus du niveau de son compagnon par le raffinement d'une longue souffrance et de l'isolement, et une sorte de virginité timide dans l'attitude. Les plis de sa robe fraîche et avenante suggéraient une sorte de pureté physique, et il y avait un vrai bon goût pittoresque dans les détails, qui, sans qu'il sache pourquoi, lui firent penser qu'elle avait conçu et fait la robe, de même que le véhicule qu'elle occupait, était de toute évidence le travail de son compagnon. Sa main, un peu trop mince, mais bien dessinée, aux doigts délicats, et d'une légèreté toute féminine, était posée sur le bord du véhicule, pendant de la forte poigne de mécanicien de son compagnon. Il y avait quelque obstacle à la progression du véhicule, et M. Oakhurst s'avança pour aider. Pendant qu'on dégagea la roue du trottoir, il fut nécessaire qu'elle lui tînt le bras, et pendant un moment sa main fine resta là, légère et froide comme un flocon de neige, et puis, à ce qu'il lui sembla, se dissipa comme un flocon de neige. Alors il se fit une pause, puis on conversa, la dame participant de temps en temps et timidement. Il apparut qu'ils étaient mariés-femmes, que depuis les deux dernières années, elle avait été une grande invalide, et avait perdu l'usage de ses membres inférieurs à cause de rhumatisme, que jusqu'à il y a peu elle avait été confinée dans son lit, jusqu'à ce que son mari, qui était maître charpentier, se fût avisé de lui fabriquer lui-même ce véhicule. Il la sortait régulièrement prendre l'air avant d'aller au travail, parce que c'était son seul moment disponible, et qu'ils attiraient moins l'attention. Ils avaient consulté de nombreux docteurs, mais sans succès. On leur avait conseillé d'aller aux sources de soufre, mais c'était cher. Monsieur Decker, le mari, avait une fois mis de côté 80 dollars dans cet objectif, mais pendant qu'il était à San Francisco, il avait été victime d'un vol à la tire. Monsieur Decker est assez inconscient. Le lecteur intelligent n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est la dame qui est en train de parler. Il n'avait jamais été capable de réunir de nouveau cette somme, et avait abandonné l'idée. C'était une chose affreuse de s'être fait voler. N'est-ce pas ce qu'il pensait? Le visage de son mari était cramoisi, mais la contenance de Monsieur Oakhurst restait calme et impassible, alors qu'il acquiesçait gravement avec elle, et restait à ses côtés en marchant jusqu'à ce qu'il passe devant le petit jardin qu'il avait admiré. Ici Monsieur Oakhurst ordonna une halte, allant à la porte, stupéfia le propriétaire par une offre absurdement extravagante pour un assortiment de fleurs. Aussitôt il retourna au véhicule avec les bras remplis de roses, des lieux trempés de verveine, et les laissa choir sur les genoux de la malade. Alors qu'elle se pencha sur elles avec une délicatesse enfantine, M. Oakhurst saisit l'opportunité pour amener son mari à l'écart. « Peut-être, dit la voix basse, et sur un ton sans marque d'aucun mal à l'aise, peut-être est-il aussi bien que vous lui ayez menti comme vous l'avez fait. Vous pouvez dire maintenant que le pickpocket a été arrêté l'autre jour, et que vous avez récupéré votre argent. » Monsieur Oakhurst glissa tranquillement 4 pièces en or de 20 dollars dans la large main d'un monsieur Decker perplexe. « Dites cela, ou tout ce que vous voudrez, sauf la vérité. Promettez-moi que vous la tairez. » L'homme promit. Monsieur Oakhurst retourna tranquillement devant le petit véhicule. La femme infirme était encore occupée avec les fleurs avec ferveur, et, alors qu'elle levait les yeux vers lui, ses joues pâles semblèrent avoir pris quelque couleur rose, et ses yeux quelque chose de la fraîcheur de leur rosée. Mais à ce moment Monsieur Oakhurst salua de son chapeau, et fut parti avant qu'elle pût le remercier. Je dois dire avec peine que Monsieur Decker rompit sans vergogne sa promesse. Cette nuit, avec la profonde bonté de son cœur, et l'excessive dévotion à sa femme, il, comme tout mari soumis, non seulement s'offrit lui-même, mais aussi son ami et bienfaiteur, en sacrifice sur l'autel familial. Il est équitable, toutefois, d'ajouter qu'il parla avec grande ferveur de la générosité de Monsieur Oakhurst, et s'appesantit avec un enthousiasme propre à sa classe, sur la renommée mystérieuse et les vices prodigues du joueur. Et maintenant, elle si chérie, Dites que vous me pardonnez, dit Monsieur Decker, tombant à genoux à côté du lit de sa femme. Je l'ai fait pour le bien. C'était pour vous, chérie, que j'ai misé cet argent sur ces cartes cette nuit à Frisco. Note du traducteur, Frisco est un diminutif de San Francisco. Fin de la note. J'espérais gagner un tas de pièces, assez pour vous sortir de là, et assez encore pour vous acheter une nouvelle robe. Madame Decker sourit, et pressa la main de son mari. Je vous pardonne, Jo chérie, dit-elle, souriant encore, avec les yeux fixant dans le vide vers le plafond. Et vous devriez être fouetté pour me mentir ainsi, vilain garçon, et m'avoir raconté un tel mensonge. Maintenant, n'en parlez plus. Soyez gentil à présent, et si vous me donnez maintenant ce bouquet de roses, je vous pardonnerai. Elle prit la gerbe avec impatience, éleva les roses à son visage, et dit alors, derrière leurs feuilles. Jo. Qu'y a-t-il mon cœur? Pensez-vous que ce monsieur, comment l'appelez-vous? Jacques Oakhurst vous aurait rendu cet argent, si je n'en avais pas parlé? Oui. S'il ne m'avait pas du tout vu? Monsieur Decker leva les yeux. Sa femme était parvenue d'une certaine façon à couvrir tout son visage avec les roses, sauf les yeux, qui brillaient fiévreusement. Non. C'est vous, elle-ci, c'est de vous avoir vu qui l'a fait agir ainsi. Une pauvre femme malade comme moi? Une douce, petite, adorable Elsie, le petit trésor de Joe. Comment aurait-il pu ne pas l'aider? Madame Decker lança avec émotion, un bras autour du cou de son mari, tout en gardant les roses devant son visage avec l'autre. Dissimulée derrière elle, elle commença à murmurer doucement et bêtement, « Chérie, mon bêta de Joe, le tendre gros nounours d'Elsie. Mais, vraiment, je ne vois pas en quoi mon devoir de chroniqueur de ces faits exigerait que je poursuive plus avant le discours de cette petite femme, et, par respect pour le lecteur célibataire, je m'arrête là. Cependant, le matin suivant, Madame Decker, trahissait quelque légère et apparemment injustifiée irritabilité en arrivant à la plaza, et souhaita aussitôt que son mari la ramène à la maison. Par ailleurs, elle fut extrêmement étonnée de rencontrer Monsieur Oakhurst juste quand il faisait demi-tour, et même douta que ce fût lui, et interrogea son mari, s'il s'agissait bien du même étranger, que la veille alors qu'il approchait. Son attitude envers Monsieur Oakhurst aussi, était très en contraste avec la franche bienvenue de son mari. Monsieur Oakhurst le remarqua immédiatement. Son mari lui a tout raconté, et elle a de l'antipathie pour moi, se dit-il, avec cette interprétation fatidique et moitié vraie des motifs d'une femme, qui fait se tromper le critique masculin le plus sage. Il s'attarda juste assez longtemps, pour prendre l'adresse professionnelle du mari, et puis levant avec gravité son chapeau, sans regarder la dame, reprit son chemin. Cela frappa le sincère maître charpentier, comme étant une des charmantes bizarreries de caractère de sa femme, le fait que, bien que la rencontre fût d'évidence très gênée et désagréable, immédiatement après l'humeur de sa femme s'embellit. « Vous avez été dur avec lui, un peu dur, n'est-ce pas, Elsie ? » dit Monsieur Decker avec désapprobation. « Je crains qu'il pense que j'ai rompu ma promesse. »« Ah, vraiment ? » dit la dame avec indifférence. Monsieur Decker descendit aussitôt vers l'avant du véhicule. « Vous avez l'allure d'une lady de première classe, descendant Broadway dans sa propre calèche Elsie, dit-il. « Je ne vous avais jamais vue avant aussi impressionnante et si maîtresse de vous-même. » Quelques jours plus tard, le propriétaire des sources de soufre de Saint Isabelle reçut la note suivante de Monsieur Oakhurst, écrite dans son style délicat bien connu. « Cher Steve, j'ai pensé à votre proposition d'acheter le quart des intérêts détenus par Nicole, et j'ai décidé de franchir le pas. Mais je ne vois pas comment l'affaire rapportera, sauf à ce que vous proposiez plus d'hébergement ici, et du meilleur niveau, j'entends par là pour mes clients. Ce que nous voulons est une extension du bâtiment principal, et deux ou trois chalets additionnels. Je vous envoie un entrepreneur du bâtiment pour prendre en main le travail une bonne fois. Il amène son épouse malade avec lui, et vous devez vous occuper d'eux comme vous le feriez pour l'un d'entre nous. Il se peut que je descende là moi-même après la saison, juste pour voir comment avancent les choses, mais je n'y organiserai aucun jeu cette saison. Votre dévoué, John Hackhurst. Ce fut seulement la dernière phrase de cette lettre qui provoqua des remarques. « Je peux comprendre, » dit Monsieur Enlin, un confrère, à qui la lettre de Monsieur Hackhurst était montrée, « je peux comprendre pourquoi Jacques, investi dans le gros œuvre et les constructions, parce que c'est pour sur une mise assurée, et c'est destiné à être quelque chose de très agréable avec le temps, s'il vient ici régulièrement. Mais pourquoi véritablement ne monte-t-il pas une salle de jeu cette saison, et saisir ainsi la chance de récupérer une partie de l'argent qu'il investit en construisant, c'est ce qui m'amène maintenant à me demander, et il réfléchit profondément, à quoi il joue. La saison avait été prospère pour Monsieur Hackhurst, et désastreuse en proportion pour plusieurs membres du corps législatif, des juges, des colonels, et d'autres qui avaient goûté mais brièvement le plaisir de la société nocturne de Monsieur Hackhurst. Et de fait Sacramento lui était devenue très ennuyeuse. Il avait pris récemment l'habitude de marche matinale, chose qui parut si inhabituelle et surprenante pour ses amis, tant hommes que femmes, que cela souleva une intense curiosité. Deux ou trois des dernières mirent des espions sur sa piste, mais l'enquête fit seulement apparaître que Monsieur Hackhurst marchait jusqu'à la plaza, s'asseyait pendant un moment sur un banc en particulier, et puis s'en retournait sans voir personne, et l'idée qu'il y avait une femme impliquée dans la situation fut abandonnée. Quelques gentlemen superstitieux de sa profession pensèrent qu'il le faisait pour la chance. D'autres, plus pratiques, déclarèrent qu'il sortait pour penser à des projets. Après la saison à Marysville, M. Hackhurst alla à San Francisco, de là il retourna à Marysville, mais quelques jours plus tard est à vue à San José, Santa Cruz, et Oakland. Ceux qui le rencontrèrent déclarèrent que son comportement était agité et fiévreux, et très différent de son calme et de son flegme ordinaire. Le colonel Starbottle pointa le fait qu'à San Francisco, au club, Jacques avait refusé de parier. La main, note du traducteur, la main, il s'agit ici des cartes distribuées au jeu. Fin de la note, est incertaine, monsieur, ça dépend d'elle. Ce n'est pas assez stimulant. Il avait été catégorique. De San José il partit d'abord pour l'Oregon par voie terrestre avec un équipage plutôt coûteux de chevaux et de campement, mais, en atteignant Stockton, il bifurqua soudainement, et 4 heures plus tard on pouvait le trouver avec un seul cheval entrant dans le canyon de San Isabel Warm Sulphur Spring, canyon des sources chaudes de soufre de Saint-Isabel. C'était une jolie vallée en forme de triangle, située au pied de trois montagnes pentues, sombres avec des pins, et remarquables avec des arbousiers et des eucalyptus. Nichée contre le flanc de la montagne, les bâtiments épars et la longue place de l'hôtel brillaient à travers les feuilles, et ici et là un chalet blanc semblable à un jouet éblouissait sous le soleil. Monsieur Hackhurst n'était pas un admirateur de la nature, mais dans sa satisfaction nouvelle à cette vue, il ressentait quelque chose de similaire à ce qu'il avait ressenti lors de sa première marche dans le matin à Sacramento. Et maintenant des voitures remplies de femmes aux vêtements éclatants commençaient à le dépasser sur la route, et les contours froids du paysage californien, commençait à se couvrir d'une sorte de chaleur et de couleur humaine. Puis la longue place de l'hôtel apparut, épanouie avec la foule revêtue de ses atours. Monsieur Hackhurst, un bon cavalier selon l'élite californienne, ne s'occupa pas de sa vitesse, alors qu'il arrivait à destination, et arriva à l'hôtel au galop, sauta de cheval d'un coup de hanche à un pied de la place, et puis émergea tranquillement du nuage de poussière soulevé avant sa descente de monture. Quelle que soit la sorte d'excitement fiévreux qui ait pu faire rage en lui, il retrouva tout son calme habituel, alors qu'il entrait sur la place. Avec l'instinct né d'une longue habitude, il se tourna et fit face à la multitude d'yeux avec la même indifférence froide avec laquelle il avait affronté depuis des années, les ricanements à demi dissimulés des hommes, et l'admiration à demi effrayée des femmes. Seule une personne s'avança pour lui souhaiter la bienvenue. Assez curieusement, c'était Dick Hamilton, peut-être le seul présent, qui par naissance, éducation, et position, aurait pu satisfaire le critique social le plus tatillon. Par chance pour la réputation de Monsieur Hackhurst, c'était aussi un banquier très riche, et une tête de file de la société. « Savez-vous avec qui vous avez parlé ?» demanda le jeune Parker avec une expression préoccupée. « Oui, » répondit Hamilton avec son effronterie caractéristique. « L'homme contre lequel vous avez perdu un millier de dollars la semaine dernière. Je le connais seulement comme relation sociale. Mais n'est-ce pas un joueur ?» Sans qu'il a plus jeune encore Miss Smith. « Il est ?» répliqua Hamilton, « mais j'aimerais, très chère jeune dame, que nous jouions tous avec autant de franchise et d'honnêteté que notre ami là-bas, et soyons aussi disposés que lui aux bonnes et mauvaises fortunes. » Monsieur Hackhurst était heureusement, hors de portée d'oreille de ce colloque, et était même en train de se prélasser nonchalamment, mais aux aguets à l'étage supérieur. Tout à coup il entendit un léger pas derrière lui, puis son nom prononcé par une voix familière, qui lui fit monter rapidement le sang au cœur. Il se retourna, elle se tenait devant lui. Mais combien transformée! Si j'avais hésité à décrire l'handicapé aux yeux creux, la femme bizarrement habillée de l'artisan, il y a quelques pages, comment devrais-je faire avec cette dame gracieuse, harmonieuse, élégamment vêtue dans laquelle elle s'était fondue au cours de ces 2 mois? En toute bonne foi elle était très jolie. Vous et moi, ma chère madame, aurions été promptes à voir que ces charmantes fossettes, étaient mal placées pour être vraiment belles, et trop figées dans leur aspect pour être d'une honnête gaieté, que les délicates lignes autour de ce nez aquilin étaient cruelles et égoïstes, que la douce surprise virginale de ses yeux adorables, était la même qu'elle aurait posée sur son assiette, ou portée à l'écoute des galants propos de son partenaire de dîner. Que sa charmante rougeur allait et venait plus selon ses humeurs que selon les vôtres. Mais vous et moi ne sommes pas amoureux d'elle, chère madame, mais monsieur Hackhurst si. Et, même dans les plis de sa robe de Paris, je crains que ce pauvre bonhomme voyait les mêmes traits de pureté, qu'il avait vu dans sa robe fruste. Puis il y a eu la délicieuse révélation qu'elle pouvait marcher, et qu'elle avait ses chers petits pieds dans les plus minuscules souliers de son chausseur français, avec ses nœuds bleus absurdes, et l'estampille chapelle, rue de quelque chose autre, sur l'étroite semelle. Il courut vers elle avec une rougeur accrue et les mains tendues. Mais elle retira les siennes derrière son dos, jeta rapidement un coup d'œil le long du hall, et resta à le regarder avec une admiration mi-audacieuse, mi-malicieuse, en contraste total avec son ancienne réserve. « Je suis très décidé à ne pas vous serrer les mains du tout. Vous venez juste de passer devant moi sur la place sans parler, et j'ai couru après vous, comme je suppose beaucoup d'autres pauvres femmes l'ont fait. » Monsieur Hackhurst bredouilla qu'elle était si changée. Raison de plus pour que vous me reconnaissiez. Qui m'a changé? Vous. Vous m'avez recréé. Vous avez trouvé une femme sans défense, infirme, malade, misérable, avec une seule robe à se mettre sur le dos, et faite par elle-même, et vous lui avez donné la vie, la santé, la force, et la fortune. Vous avez fait cela, et vous le savez, monsieur. Que pensez-vous de votre travail ? Elle prit dans chaque main un pli de sa robe, et lui fit une révérence espiègle. Puis, d'un geste soudain, comme en cédant, elle lui tendit ses deux mains. Aussi outrageant que fut ce speech, et aussi peu féminin comme je crois le jugera tout lecteur sincère, je crains qu'il ait plu à Monsieur Hackhurst. Non qu'il n'était pas habitué à une certaine franche considération féminine, mais alors cela venait de l'alcôve, et non du cloître, avec lequel il persista toujours à associer Madame Decker. Être traitée de la sorte par une puritaine infirme, une sainte malade encore revêtue de l'austérité de la souffrance, une femme qui avait une Bible sur sa coiffeuse, qui allait à l'église trois fois par jour, et était fidèle à son mari, le stupéfia complètement. Il tenait encore ses mains quand elle poursuivit. Pourquoi n'êtes-vous pas venu avant? Que faisiez-vous à Marysville, à San-José, à Oakland? Vous voyez que je vous ai suivi. Je vous ai vu quand vous descendiez le canyon, et j'ai su aussitôt que c'est à vous. J'ai vu votre lettre à Joseph, et savais que vous veniez. Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? Vous aviez le temps. Bonsoir, monsieur Hamilton. Elle avait retiré ses mains, mais pas avant que Hamilton, descendant l'escalier, fut presque contre eux. Il la salua en soulevant son chapeau avec un calme de bonne éducation, salua familièrement Hackhurst d'un signe de tête, et passa. Quand il fut parti, Madame Decker leva les yeux vers Monsieur Hackhurst. Un jour je vous demanderai une grande faveur. Monsieur Hackhurst bégaya que ce devrait être maintenant. Non, pas avant que vous me connaissiez mieux. Alors, un jour, je veux que vous tuiez cet homme. Elle sourit d'un petit sourire en cœur si charmant, une telle exposition de fossette, quoique un peu figée dans les coins de sa bouche, une lueur si innocente dans ses yeux marrons, et une couleur si adorable sur ses joues, que Monsieur Hackhurst, qui riait rarement, sourit lui aussi de bon cœur. C'était comme si un agneau avait proposé à un renard, une incursion dans une bergerie voisine. Quelques soirées plus tard, Madame Decker émergeait d'un cercle charmé de ses admirateurs à l'hôtel Piazza, s'excusa pour quelques instants, déclina en souriant qu'on l'escorta, et courut à son petit chalet, un de ceux créés par son mari, de l'autre côté de la rue. Peut-être à cause de l'effort soudain et inaccoutumé dans son état encore convalescent, elle respirait rapidement et fiévreusement, quand elle entra dans son boudoir, et une ou deux fois appuya sa main sur sa poitrine. Elle sursauta en allumant la lumière de découvrir son mari allongé sur le sofa. « Vous avez l'air fiévreuse et énervée, elle si chérie, » dit Monsieur Decker. « Votre état n'empire pas, n'est-ce pas ?» Le visage de Madame Decker avait pâli, mais maintenant reprenait des couleurs. « Non, » dit-elle, « seulement une petite douleur ici, » alors qu'elle posait une fois de plus sa main sur son cœur sage. « Puis-je faire quoi que ce soit pour vous ?» dit Monsieur Decker, en se levant et affectueusement préoccupé. « Courez à l'hôtel et rapportez-moi du brandy, vite !» Monsieur Decker courut. Madame Decker ferma et verrouilla la porte, et puis, portant la main à sa poitrine, retira la douleur. Elle était pliée en quatre, et était, je suis peinée de le dire, écrit de la main de Monsieur Hackhurst. Elle la dévora avec les yeux ardents, et les joues brûlantes jusqu'à ce que des pas se fassent entendre sous le porche, alors elle la replaça rapidement dans sa poitrine, et déverrouilla la porte. Son mari entra. Elle porta la liqueur à ses lèvres, et déclara se sentir mieux. « Allez-vous retourner là-bas cette nuit ?» demanda Monsieur Decker docilement. Non, dit Madame Decker, avec ses yeux fixés rêveusement sur le sol. Je ne le ferais pas si j'étais vous, dit Monsieur Decker avec un soupir de soulagement. Après une pause, il prit place sur le sofa, et, attirant sa femme à côté de lui, dit, « Savez-vous à quoi j'étais en train de penser quand vous êtes entrée, celle-ci ?» Madame Decker passa ses doigts dans ses cheveux noirs épais, et ne put imaginer. « Je pensais à autrefois, celle-ci. J'étais en train de penser au jour où j'ai construit ce chalet pour vous, celle-ci, quand j'avais l'habitude de vous sortir en promenade, et était à la fois compagnon et conducteur. Nous étions pauvres alors, et vous étiez malade, celle-ci, mais nous étions heureux. Nous avons de l'argent maintenant, et une maison, et vous êtes une femme tout à fait autre. Je dois dire, chérie, que vous êtes une nouvelle femme. Et c'est là où nous en venons au problème. J'ai pu vous construire un chalet, celle-ci, j'ai pu vous construire une maison, celle-ci, mais ça s'est arrêté là. Je n'ai pas pu vous construire. Vous êtes forte et belle, celle-ci, et fraîche et nouvelle. Mais cependant, celle-ci, vous n'êtes pas mon œuvre. Il s'arrêta. Avec une main posée gentiment sur son front, et l'autre appuyée sur son sein, comme si elle sentait la douleur présente, elle dit doucement et d'une voix apaisante. Mais ce fut votre travail, chéri. Monsieur Decker secoua la tête tristement. Non, celle-ci, pas le mien. J'ai eu la chance de pouvoir le faire une fois, et je l'ai laissé passer. C'est fait maintenant, mais pas par moi. Madame Decker leva ses yeux surpris, innocents, vers les siens. Il l'embrassa tendrement, puis poursuivit d'une voix plus gaie. Ce n'est pas tout ce que je pensais, celle-ci, je pensais que peut-être vous accordiez trop de votre compagnie à ce monsieur Hamilton. Non qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, de votre part ou de la sienne, mais ça pourrait amener les gens à jaser. Vous êtes la seule ici, celle-ci, dit le maître charpentier, regardant tendrement sa femme, au sujet de qui on ne fait pas de commentaires, dont le comportement n'est pas jugé et condamné. Madame Decker était heureuse qu'il ait abordé ce sujet. Elle aussi avait pensé la même chose. Mais elle ne pouvait décemment pas être impolie envers Monsieur Hamilton, qui était un distingué gentleman, sans en faire un puissant ennemi. Et il m'a toujours traité comme si j'étais une damnée dans son propre cercle, ajouta la petite femme, avec une certaine fierté qui fit sourire affectueusement son mari. Mais j'ai pensé à un plan. Il ne restera pas ici si je dois partir. Si, par exemple, j'allais à San Francisco pour visiter même en quelques jours, il serait parti avant que je sois de retour. Monsieur Decker fut enchanté. Absolument, dit-il, partez demain. Jacques Hurst est sur le départ, et je vous confierai à ses soins. Madame Decker ne pensait pas que c'était prudent. Monsieur Hurst est notre ami, mais vous connaissez sa réputation. En fait, elle ne savait pas si elle devait partir maintenant, sachant qu'il partait ce même jour, mais avec un baiser, Monsieur Decker chassa ses scrupules. Elle se rendit gracieusement. Peu de femmes, en fait, savaient comment renoncer avec autant de charme qu'elle. Elle resta une semaine à San Francisco. Quand elle revint, elle était un rien plus mince et plus pâle qu'elle ne l'avait été. C'était, expliqua-t-elle, le résultat de peut-être trop d'activité et d'enthousiasme. J'étais dehors presque tout le temps que maman vous le dira, dit-elle à son mari, et toujours seule. Je deviens très indépendante maintenant, ajouta-t-elle gaiement. Je ne veux aucun chaperon. Je crois, Joe et chérie, que je pourrais même me débrouiller sans vous, je suis si brave. Mais sa visite n'avait apparemment pas produit le dessein escompté impulsivement. Monsieur Hamilton n'était pas parti, mais était resté et demanda après eux ce même soir. Il m'a venu à l'idée un plan, cher Joe, dit Madame Decker, quand il s'en fut allé. Ce pauvre monsieur Oakhurst a une misérable chambre à l'hôtel. Supposons que vous lui demandiez, quand il reviendra de San Francisco, qu'il reste avec nous. Il peut s'installer dans notre pièce libre. Je ne pense pas, ajoutait-elle malicieusement, que monsieur Hamilton nous rendra visite souvent. Son mari sourit, laissa entendre qu'elle était un peu coquine, lui pinça la joue, et accepta. Ce qui est singulier chez une femme, dit-il plus tard à monsieur Oakhurst confidentiellement, c'est que sans avoir aucun plan propre, elle prendra celui de n'importe qui, et construira dessus une maison entièrement différente, et qui convienne à ses besoins. Et je parierais mon chapeau que vous ne seriez pas capable de dire, si en plus elle ne vous ferait pas tirer les plans et les mesures. C'est ce qui m'est arrivé. La semaine suivante, monsieur Oakhurst s'était installé dans le chalet des Decker. Les relations de travail entre lui et son mari étaient connues de tous, et sa propre réputation était au-dessus de toute suspicion. De fait, peu de femmes étaient plus populaires. C'était une femme d'intérieur, elle était réservée, elle était pieuse. Dans une région où les femmes jouissaient d'une grande latitude et d'une grande liberté, elle ne sortait ni ne marchait avec personne d'autre que son mari. À une époque de langage argotique et au sens ambigu, elle était toujours précise et formelle dans ses conversations. En pleine mode de présentation ostentatoire, elle ne portait jamais un diamant, ni un seul bijou de valeur. Elle ne se permettait jamais la moindre inconvenance en public. Elle ne s'accordait jamais les familiarités de la société californienne. Elle se prononçait contre l'attitude prédominante d'incrédulité et de scepticisme religieux. Peu de ceux qui furent présents oublieront jamais la façon empreinte de dignité majestueuse, dont elle réprimanda monsieur Hamilton en public dans le petit salon, pour son intervention dans une discussion sur un ouvrage sur le matérialisme, publié dernièrement, et quelques-uns parmi eux, en plus, n'oublieront pas l'expression de surprise amusée sur le visage de monsieur Hamilton, qui se changea peu à peu en une gravité sardonique. Alors qu'il renonçait courtoisement à défendre son point de vue, certainement pas monsieur Oakhurst qui, de ce moment, commença à éprouver un intolérable mal à l'aise avec son ami, et même, si un tel terme pouvait s'appliquer à quelques sentiments de monsieur Oakhurst, à le redouter. À cette époque monsieur Oakhurst avait commencé à montrer des symptômes de changement dans ses habitudes. Il était rarement, voire jamais, vu dans ses vieux repères, dans un bar, ou avec ses vieux associés punk, et écrivait des notes d'une main distraite, accumulées sur la coiffeuse dans ses appartements à Sacramento. On pensait à Sacramento qu'il avait une maladie du cœur, pour laquelle son médecin avait prescrit un repos complet. Il lut plus. Il vendit ses chevaux rapides, il alla à l'église. J'ai un très vif souvenir de sa première apparition ici. Il n'accompagnait pas les Decker, n'alla pas non plus sur leur banc, mais entra alors que le service commençait, et prit silencieusement place sur un des bancs du fond. Par quelque mystérieux instinct, sa présence se fit notoire dans la congrégation, dont certains allèrent jusqu'à s'oublier, par curiosité, regardant alentour, et apparemment lui adressait leurs réponses. Avant que le sermon soit terminé, on avait compris sans équivoque que misérable pécheur signifiait monsieur Oakhurst. Cette mystérieuse influence ne manqua pas d'affecter le prêtre, qui introduisit une allusion sur les activités et les habitudes de monsieur Oakhurst dans un sermon sur l'architecture du temple de Salomon, d'une façon si manifeste et si laborieuse, à en faire réagir le plus jeune d'entre nous avec indignation. Heureusement, cependant, cela glissa sur Jacques. Je ne crois même pas qu'il l'écouta. Son beau visage, sans couleur, mais un peu fatigué et pensif, était insondable. Seulement une fois, Pendant le chant d'un hymne, à une certaine note dans la voix du contralto, il se glissa dans ses yeux sombres, un regard de tendresse mélancolique, à la fois si ardent et si désespéré, que ceux qui le regardaient se sentirent illuminés. J'ai encore très vivement en mémoire, le moment où il se mit debout, pour recevoir la bénédiction, qui laissait penser, par son attitude et sa veste étroitement boutonnée, qu'il allait recevoir le feu de son adversaire à 10 pas. Après la messe, il disparut aussi discrètement qu'il était entré, et évita heureusement d'entendre les commentaires sur son acte téméraire. Sa présence fut généralement considérée comme une offense, attribuable seulement à quelques dérèglements fantaisistes ou peut-être à un pari. Seuls un ou deux pensèrent que le sacristain avait été extrêmement négligent de ne pas l'avoir expulsé après avoir découvert qui il était, et le prééminent titulaire d'un banc fit remarquer que s'il ne pouvait pas amener sa femme et sa fille à cette église, sans les exposer à une telle influence, il essaierait de trouver une église où ce fût possible. Un autre reliait la présence de M. Oakhurst à certaines influences de la haute église, dont il regrettait de dire qu'il en avait trouvé trace chez leur pasteur. Deacon Sawyer, dont la femme chétive et délicatement méthodique, lui avait déjà donné 11 enfants, et était mort dans son ambitieuse tentative de compléter la douzaine, déclara que la présence d'une personne, telle que M. Oakhurst aux conquêtes nombreuses et sans compter, était une insulte à la mémoire de la défunte, ce que, en tant qu'homme, il ne pouvait pas tolérer. C'est à cette époque que M. Oakhurst, en contraste avec le monde conventionnel, auquel il s'était jusque-là rarement mêlé, se rendit compte qu'il y avait quelque chose dans son visage, sa figure, et son maintien, tout à fait différent des autres hommes, quelque chose qui, s'il ne trahissait pas sa précédente carrière, au final, montrait une individualité et une originalité qui éveillaient la méfiance. Pour cette croyance, il rasa ses longues moustaches soyeuses, et brossa religieusement chaque matin ses frisures emmêlées. Il alla même au point d'affecter une négligence vestimentaire, et cacha ses pieds petits, minces, parqués, dans les plus larges et les plus lourdes chaussures de marche. Il y a une histoire qui dit qu'il alla chez son tailleur à Sacramento, et lui demanda de lui faire un assortiment de vêtements, comme en porte tout un chacun. Le tailleur, familier des exigences de M. Oakhurst, ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là. « Je veux dire, » dit M. Oakhurst brutalement, « quelque chose de respectable, quelque chose qui ne m'aille pas parfaitement, vous comprenez. Mais, quoi qu'il en soit, M. Oakhurst aurait pu cacher ses membres harmonieux sous des vêtements cousus et faits chez soi. Il y avait quelque chose dans son maintien, quelque chose dans le port de sa belle tête, quelque chose dans la subtile et forte masculinité de sa présence, quelque chose dans sa parfaite, complète discipline et le contrôle de ses muscles, quelque chose dans la grande sérénité de son caractère. Une sérénité non tant conséquence d'une règle intellectuelle que sa nature profonde, que, où qu'il aille, et avec qui que ce soit, il était toujours un homme qu'on remarquait parmi 10 000. Peut-être cela ne fut-il jamais aussi clairement laissé entendre à M. Oakhurst, que quand, enhardi par les conseils et l'assistance de M. Hamilton, et ses propres prédilections, il devint courtier à San Francisco. Avant même, objection fut faite quant à sa présence dans le comité, l'objection fut soulevée avec beaucoup d'éloquence par Rod Sanders, qui était supposé être l'inventeur du système de poussée dehors, pour se débarrasser des actionnaires pauvres, et qui jouissait aussi de la réputation d'avoir provoqué la ruine et le suicide de Brick de Tulumne, avant même donc cette manifestation formelle de la respectabilité contre l'anarchie, furent les insinuations venimeuses, que la mine et la contenance de M. Oakhurst, non seulement avait fait fuir prématurément les pigeons, mais provoqué un gros malaise parmi les aigles pêcheurs, qui tournaient autour de lui avec leur butin. Foutaise. Il peut nous convenir autant que n'importe qui, dit Joe Fielding. Il ne restait que quelques jours avant la fin de la brève saison estivale aux sources chaudes de San Isabel. Ce qu'il y avait de plus distingué était déjà parti, et il y avait une désagréable ambiance délétère et déprimante dans ce qui restait de vie sociale. Monsieur Oakhurst était de mauvaise humeur. Il y avait des indices que même la réputation intacte de Madame Decker ne pourrait plus la protéger des ragots que sa présence provoquait. Il est juste envers elle de dire que pendant les dernières semaines de cette épreuve, elle ressemblait à une martyre douce, pâle, et se comportait envers ses calomniateurs avec l'attitude clémente et suave de quelqu'un qui ne dépend pas de l'hommage de la foule, mais s'appuie sur la valeur d'une morale plus précieuse que la faveur populaire. Il jase à propos de moi et Monsieur Oakhurst, ma chère, dit-elle à une amie, mais le ciel et mon mari peuvent mieux répondre à leur calomnie. Il ne sera jamais dit que mon mari aura tourné le dos à un ami dans l'adversité, parce que sa situation a changé, parce que son ami était pauvre, et que lui était riche. Ce fut la première indication au public que Jack avait perdu de l'argent, alors qu'on savait généralement que les Decker avaient acheté dernièrement quelques propriétés de valeur à San Francisco. Quelques soirées plus tard, il survint un incident qui apparaissait désagréablement en dissonance avec l'harmonie sociale générale qui avait toujours existé à San Isabel. C'était au dîner, et Monsieur Oakhurst et Monsieur Hamilton, qui étaient assis ensemble à une table à l'écart, furent observés saignement au point d'en être altérés. Quand ils atteignirent le hall, par un commun instinct ils entrèrent dans une petite pièce pour déjeuner qui était vacante, et fermèrent la porte. Puis Monsieur Hamilton se tourna vers son ami avec un sourire mi-amusé, mi-sérieux, et dit « Si nous allons nous quereller, Jack Oakhurst, vous et moi, au nom de tout ça c'est ridicule. Ne faites pas ça pour une, je ne sais pas quelle épithète devait suivre, soit elle ne fut pas dite, soit elle se perdit, car au même moment Monsieur Oakhurst remplit un verre à vin, et jeta son contenu à la figure de Hamilton. Alors qu'il se faisait face, les hommes semblaient avoir changé de nature. Monsieur Oakhurst était tremblant d'excitation, et le verre à vin qu'il posa sur la table tremblait entre ses doigts. Monsieur Hamilton resta sur place, blanc grisâtre, raide, et ruisselant. Après un moment, il dit froidement « Qu'il en soit ainsi. Mais rappelez-vous, notre querelle commence ici. Si je suis abattu de votre main, vous ne pourrez le mettre en avant pour laver sa réputation, si vous êtes abattu de la mienne. On ne fera pas de vous un martyr. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais ainsi soit-il, maintenant le plus tôt sera le mieux. » Il se tourna fièrement, baissa ses paupières sur ses yeux froids bleus et sués, s'inclina comme s'il rengainait une rapière, et avec froideur sortit. Ils se rencontrèrent, 12 heures après, dans un petit vallon à 2 miles de l'hôtel, sur la route de Stockton. Alors que Monsieur Oakhurst recevait son pistolet des mains du colonel Starbottle, il lui dit à voix basse, « Quelle que soit la façon dont tournent les choses, je ne retournerai pas à l'hôtel. Vous trouverez des instructions dans ma chambre, allez-y. » Mais sa voix s'altéra subitement, et il détourna ses yeux brillants, au plus grand étonnement de son assistant. « J'ai été dans cette situation. » Une douzaine de fois avec Jack Oakhurst, dit le colonel Starbottle, et je ne l'avais jamais vu avant dans cet état. Faites fi de moi, si je n'ai pas pensé qu'il était en train de perdre courage, pendant qu'il rejoignait sa position. Les deux coups furent presque simultanés. Le bras droit de Monsieur Oakhurst tomba d'un coup à son côté, et son pistolet serait tombé de ses doigts paralysés, mais la discipline des nerfs et des muscles entraînés prévalut, et il conserva sa prise jusqu'à ce qu'il ait changé de main, sans bouger de sa position. Puis il y eut un silence qui sembla interminable, un rassemblement de deux ou trois figures sombres là où un volute de fumée flottait encore paresseusement, puis la voix pressée, rauque, haletante du colonel Starbottle à son oreille, il est sérieusement touché à travers les poumons, dépêchez-vous d'aller le voir. Jacques tourna ses yeux sombres et interrogateurs sur son assistant, mais ne semblait pas écouter, ou plutôt semblait entendre une autre voix, plus éloignée. Il hésita, et puis fit un pas en avant vers le groupe plus loin. Puis il s'arrêta de nouveau alors que les hommes se séparaient, et le chirurgien vint en hâte vers lui. « Il voudrait parler avec vous un moment » dit l'homme. « Vous avez peu de temps à perdre, je sais, mais, » ajouta-t-il sur un ton plus bas, « il est de mon devoir de vous dire qu'il en a encore moins. » Un regard de désespoir, si irrémédiable dans son intensité, submergea le visage d'habitude impassible de M. Oakhurst, que le chirurgien poursuivit, « Vous êtes touché, » dit-il, jetant un regard au bras inerte de Jacques. « Rien, une égratignure, » dit Jacques hâtivement. Ensuite il ajouta avec un sourire amer, « Ce n'est pas un jour de chance aujourd'hui. Mais venez nous verrons ce qu'il veut. » De sa longue foulée fiévreuse il dépassa le chirurgien, et un moment après il se tenait près du mourant qui gisait, comme la plupart des mourants, comme la figure calme et posée, au centre d'un groupe anxieux. Le visage de M. Oakhurst était moins calme en s'agenouillant à côté de lui, et il prit ses mains. « Je veux parler seul avec ce gentleman, » dit Hamilton, avec quelque chose de ses vieilles manières impérieuses, en se tournant vers ceux près de lui. Quand il se fut reculé, il leva les yeux sur Oakhurst. « J'ai quelque chose à vous dire, Jack. » Son propre visage était blanc, mais pas aussi blanc que celui que M. Oakhurst pencha sur lui, un visage si pâle, hanté par les doutes, et un pressentiment désespéré d'un mal à venir, un visage si pathétique dans son infinie lassitude et son envie de mourir, que le mourant en fut touché, même dans la langueur de sa faim, avec un pincement au cœur de compassion, et le sourire cynique disparut de ses lèvres. « Pardonnez-moi, Jack, » murmura-t-il plus faiblement, « pour ce que j'ai à vous dire. Je ne le dis pas avec colère, mais seulement parce que ça doit être dit. Je n'aurais pas fait mon devoir envers vous, je ne pourrais pas mourir en paix, avant que vous sachiez tout. C'est au mieux une triste affaire que tout cela. Mais on ne peut plus rien y changer. J'aurais seulement dû être abattu par le pistolet de Decker, et pas par le vôtre. » Une rougeur comme de feu monta aux joues de Jack, et il se serait mis debout, mais Hamilton le retint rapidement. « Écoutez. Dans ma poche vous trouverez deux lettres. Prenez-les et l'on. Vous reconnaîtrez l'écriture. Mais promettez que vous ne les lirez pas avant d'être en lieu sûr. Promettez-moi. » Jack ne dit rien, mais tint les lettres entre ses doigts, comme si elles avaient été de charbon incandescent. « Promettez-moi, » dit Hamilton faiblement. « Pourquoi ?» demanda Oakhurst, laissant retomber avec froideur la main de son ami. « Parce que, » dit le mourant avec un sourire amer, « parce que, quand vous les aurez lus, vous, retournerez, pour, faire avouer, et tuer. » Ce furent ses dernières paroles. Il pressa la main de Jack faiblement. Puis son étreinte se relâcha, et son cadavre s'affaissa. Il était presque 10 heures du soir, et Madame Decker était allongée languidement, sur le sofa avec un roman dans les mains, pendant que son mari discutait de la politique de la région au bar de l'hôtel. C'était une nuit chaude, et la porte-fenêtre qui donnait sur un petit balcon était entr'ouverte. Tout à coup elle entendit un bruit de pas venant du balcon, et elle leva les yeux du livre avec un léger sursaut. L'instant d'après, la fenêtre était poussée vivement, et un homme entra. Madame Decker se redressa avec un petit cri de peur. « Pour l'amour du ciel, Jack, êtes-vous fou ? Il est seulement sorti pour un moment, il peut revenir à tout instant. Revenez dans une heure, demain, à n'importe quel moment où je peux me débarrasser de lui, mais partez, maintenant chérie, immédiatement. » Monsieur Oakhurst marcha à la porte, la verrouilla, puis lui fit face sans un mot. Son visage était hagard, la manche de son manteau pendant sur un bras qui était bandé et ensanglanté. Cependant sa voix ne faiblit pas, quand elle se tourna vers lui. « Qu'est-il arrivé, Jack ? Pourquoi êtes-vous ici ?» Il ouvrit son manteau, et jeta deux lettres sur ses genoux. « Pour vous retourner les lettres de votre amant, pour vous tuer, puis me tuer, » dit-il d'une voix si faible, qu'elle était presque inaudible. Parmi les nombreuses vertus de cette admirable femme, il y avait un invincible courage. Elle ne faiblit pas, elle ne cria pas, elle se radossa tranquillement, croisa les mains sur ses genoux, et dit calmement. « Et pourquoi ne le feriez-vous pas ? Aurait-elle reculé ? Aurait-elle montré quelque peur ou repentir ? Aurait-elle tenté une explication ou excuse ? Monsieur Oakhurst l'aurait interprété comme une preuve de culpabilité. Mais il n'est pas de qualité que le courage reconnaisse aussi rapidement que le courage. Il n'est pas d'état devant lequel le désespoir ne s'incline, sauf le désespoir. Et la capacité d'analyse de Monsieur Oakhurst n'était pas assez aiguë pour l'empêcher de confondre son courage avec une qualité morale. Même dans sa fureur, il ne pouvait s'empêcher d'admirer cet intrépide invalide. « Pourquoi ne le feriez-vous pas ? » répéta-t-elle avec un sourire. « Vous m'avez donné la vie, la santé, et le bonheur, Jack. Vous m'avez donné votre amour. Pourquoi ne pourriez-vous reprendre ce que vous avez donné ? Allez-y. Je suis prête. » Elle tendit ses mains avec cette même grâce d'abandon infini avec laquelle elle avait pris les siennes, le premier jour de leur rencontre dans l'hôtel. Jack leva la tête, la regarda furieusement pendant un moment, tomba à genoux à côté d'elle, et porta les plis de sa robe à ses lèvres fiévreuses. Elle était trop fine pour ne pas voir instantanément sa vie de poire. En même temps, elle était trop femme, avec toute son habileté, pour se retenir de savourer complètement cette victoire chez elle. Au même moment, comme le réflexe d'une femme outragée et blessée, elle se leva, et, d'un geste impérieux, montra la fenêtre. Monsieur Oakhurst se leva à son tour, jeta un regard sur elle, et sans un autre mot s'effaça pour toujours. Quand il fut parti, elle ferma la fenêtre et la verrouilla, et, allant à la cheminée dans la salle, mit les lettres, une par une, dans les flammes du foyer jusqu'à ce qu'elles fussent consumées. Je ne voudrais pas que le lecteur pense que, pendant cette pénible opération, elle resta immobile. Ses mains tremblaient, et, n'étant pas une brute, pendant quelques minutes, peut-être plus, elle se sentit très mal. Les coins de sa bouche délicate étaient affaissés. Quand son mari arriva, c'est avec une vraie joie qu'elle courut à lui, et se blottit contre sa large poitrine avec un sentiment de sécurité, qui fit vibrer le brave homme jusqu'à l'âme. « J'ai entendu des nouvelles terribles cette nuit, Elsie, » dit Monsieur Decker, après que quelques tendresses furent échangées. « Ne me dites rien de terrible, chérie. « Je ne suis pas très bien cette nuit, » plaida-t-elle doucement. « Mais c'est en rapport avec Monsieur Oakhurst et Hamilton. S'il vous plaît. » Monsieur Decker ne put résister à la supplique de ses mains blanches et de sa bouche délicate, et la prit dans ses bras. Soudain il dit, « Qu'est-ce que cela ? » Il montrait le bas de sa robe blanche. Là où Monsieur Oakhurst l'avait touché, il y avait une tache de sang. Ce n'était rien, elle s'était légèrement coupée la main en fermant la fenêtre, elle est si difficile à fermer. Si Monsieur Decker s'était rappelé de fermer et verrouiller la poignée avant de sortir, il aurait pu lui éviter cela. Il y avait tant d'irritabilité sincère, et de force dans cette remarque, que Monsieur Decker fut submergé par le remords. Mais Madame Decker le pardonna avec cette miséricorde que j'ai déjà soulignée dans ces pages. Et avec le halo de ce pardon, et cette confiance maritale encore persistant sur le couple, avec la permission du lecteur nous allons les laisser, les retourner à Monsieur Hackhurst. Après 2 semaines. À la fin de cette période, il alla dans ses appartements à Sacramento, et suivant sa vieille habitude prit sa place à la table de Pharaon. « Comment va votre bras Jack ?» demanda un joueur imprudent. Il y eut un sourire qui suivit la question, qui, toutefois, disparut quand Jack regarda tranquillement l'intervenant. « Il a encore un peu de mal à se mouvoir, mais je peux tirer aussi bien avec le gauche. » Le jeu se poursuivit dans ce silence convenable, qui distinguait habituellement la table à laquelle Monsieur John Oakhurst présidait. Fin.